Alors, on vous invite à tourner avec nous dans l'Évangile de Luc. On va aller ensemble au chapitre 3 ce matin. Et pendant que Camille vient s'installer pour nous lire la parole de Dieu, laissez-moi vous parler un petit peu, vous mettre un peu en contexte, d'accord? Parce que dans le passage de ce matin, il y a un élément historique qui est super important. Je cherchais comment l'appeler, c'est quoi la bonne manière de l'appeler, est-ce qu'on parle d'une tradition, on parle d'un rituel, on parle de pratique, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Excusez-moi. On voit apparaître dans Luc 3 l'idée du baptême, le baptême d'eau. Et les chrétiens pratiquent ça, appelons-le pour l'instant une tradition, d'accord? Pratique cette tradition-là depuis Jésus. Donc, 2000 ans, les chrétiens baptisent. Les chrétiens se font baptiser. On a ici un vieux baptistère qui est sorti avec des fouilles archéologiques. C'est beaucoup plus qu'une tradition pour les chrétiens. C'est vraiment un geste avec une énorme symbolique. Et pourquoi est-ce que je prends le temps d'en parler un petit peu plus ce matin? C'est parce qu'on le voit apparaître dans le contexte de Luc 3. Dans un contexte où Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, invite des gens à venir le rejoindre sur le bord d'un cours d'eau et va les baptiser. Maintenant, j'ai besoin de vous donner quelques informations juste pour que vous voyez déjà ce que Dieu est en train de faire avec le peuple d'Israël à ce moment-là. D'accord? On se met en contexte pour aller lire notre passage. Les Juifs baptisaient à l'époque généralement. On trouve dans les informations historiques qu'on a, les Juifs baptisaient à l'époque généralement des non-Juifs qui décidaient de se convertir au judaïsme. C'était une pratique qui était déjà présente. Et donc, si tu étais, je ne sais pas, d'un autre peuple, d'une autre nationalité, tu étais attiré par le Dieu des Juifs, tu te convertissais à la foi juive, à tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, on pouvait te baptiser. Puis là arrive Jean-Baptiste, qui, lui, s'adresse pas aux non-juifs, mais il s'adresse aux juifs. Et il les invite à venir et il leur dit, vous devez vous repentir. Et donc, il ne baptise pas des non-juifs, mais il baptise des juifs en leur disant, vous qui dites être le peuple de Dieu, vous devez venir et consacrer vos cœurs à Dieu. Et il les baptise d'un baptême qu'on appelle le baptême de repentance. Jésus lui-même va être baptisé dans le passage ce matin. On va aller voir ça. Et plus tard, Jésus va commencer à faire baptiser des gens, c'est surtout ses disciples qui le faisaient, à baptiser des gens en son nom. Et les chrétiens, depuis ce temps-là, pratiquent le baptême, normalement par immersion. Alors, ce qu'on voit ici, puis c'est ce qu'on va voir dans quelques semaines à l'église ici aussi, les gens descendaient parfois sur le bord d'une rivière, parfois en ville, dans un bassin. Les gens descendaient dans un bassin. Souvent, un pasteur était présent avec eux et les immergeait. Et il y avait toute une symbolique là qui représentait la repentance, la nouvelle naissance. On va le voir tout à l'heure. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Et je veux juste mentionner, on a une sœur de l'Assemblée qui a perdu son fils, qui était assez âgé. Madame Soulière a perdu un fils. Et on vient juste de l'apprendre tout à l'heure. Alors, on voudrait prendre un instant pour prier pour nos cœurs, mais on voudrait prier pour notre sœur, Mme Soulière. Son fils s'appelle Robert. On n'a pas plus d'informations. On va vous tenir au courant. Mais on voudrait aller dans la prière pour Mme Soulière. D'accord? Bien, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi dans la prière ce matin avec toutes sortes de sentiments, Seigneur. Le plaisir d'être ensemble. Puis tout à l'heure, au dernier moment, on apprend ça. On apprend pour Laura qui a eu un accident, Laura Gagné, Mme Soulière qui a perdu son fils, Seigneur. Et on veut en esprit être avec eux, dans la prière, Seigneur, te demander de mettre ta main sur le cœur de Mme Soulière, de son époux, de sa famille, de venir apporter ta consolation, Seigneur. Je connais pas vraiment Robert, je l'ai croisé à quelques reprises, mais je te demande, Seigneur, de mettre ta main sur la famille, de venir apporter ta consolation, ta paix, Seigneur, dans les circonstances. Et montre-nous comment, Seigneur, cette semaine, on pourra être là pour eux, pour les entourer, pour leur envoyer un mot, pour les accompagner, Seigneur, dans cette douleur-là. Père, on veut te demander d'être avec nous maintenant, de préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Viens, Seigneur, nous parler de toi, Jésus, et viens appliquer cette bonne parole à nos cœurs et à nos vies. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu. On survole une grande portion du passage parce que on veut souligner la préparation de Jésus pour le ministère. Puis pendant que j'étais en train d'étudier le passage, ça m'a frappé, je méditais, puis j'étudiais, puis je réalisais à quel point quand Dieu appelle un individu, quand Dieu appelle un peuple, quand Dieu appelle une église, quand Dieu appelle une personne à une œuvre particulière, quelle que soit cette œuvre-là, qu'elle ait de l'air super spirituelle ou que ce soit d'être appelé au mariage, d'être appelé à un travail dans un domaine particulier. Quand Dieu appelle un individu, il prépare le terrain, puis il prépare son serviteur. Je vous donne quelques exemples où on voit que ça revient constamment dans les Écritures. On voit comment il a préparé Sarah et Abraham à avoir l'enfant qu'il n'attendait plus. On voit comment Dieu a préparé Moïse pour l'appeler des années plus tard. Puis vraiment, Dieu est souverain. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, c'est très évident comment il a préparé le peuple aussi pour le leadership de Moïse. Donc, Dieu prépare le terrain, prépare son serviteur. On voit comment Dieu a préparé David et comment il a préparé le peuple au ministère que David allait avoir comme roi. On voit comment Dieu a appelé et formé des apôtres. L'apôtre Paul, même en particulier, même le jeune Timothée qui allait devenir un grand pasteur, comment est-ce que Dieu l'a préparé pour l'appel qu'il avait sur sa vie. La semaine dernière, on a vu comment, dans l'Évangile de Luc, Dieu a préparé Marie pour le ministère qu'elle allait avoir en portant ce sauveur-là. Et donc, Dieu préparait encore. Quand Dieu appelle une personne à une œuvre quelconque, quand Dieu appelle une personne à une œuvre quelconque, Dieu est actif. Dieu est actif sur le terrain. Il est en train de préparer le terrain, de préparer ses serviteurs. C'est vrai dans votre vie, c'est vrai dans ma vie. Quel que soit notre appel, que ce soit Charles ou Tania qui nous partageait tout à l'heure, Charles nous partageait l'appel qu'ils sont en train de voir à travers le ministère de Yatal. Dieu prépare son serviteur et c'est vrai dans tous les domaines. Et donc, vous pourriez ce matin écouter le passage puis penser seulement à Christ, mais plus tard, Christ va s'adresser à ses disciples. Et les mêmes principes vont s'appliquer, d'accord? Si vous êtes appelé à vous engager, quel que soit l'appel, quelles que soient les circonstances, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans le service, que ce soit dans un petit groupe en mission pour aller servir, Dieu prépare le terrain et il prépare son serviteur. Et j'étais en train d'étudier ce passage-là cette semaine, puis j'étais fasciné de voir que Dieu prend le temps de préparer Jésus-Christ. S'il y a un être humain dans toute l'histoire de l'humanité qui, il me semble, n'avait pas besoin de préparation, c'est le Fils de Dieu. Et pourtant, Dieu prend le temps de préparer le terrain, de mettre à part son serviteur et de le préparer pour l'œuvre à laquelle il a été appelé. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu prépare son Fils unique pour le ministère de l'Évangile, mais il prépare aussi les cœurs à recevoir la bonne nouvelle. Dieu commence par les cœurs, quand Dieu prépare les cœurs. Alors, si vous regardez simplement comment est-ce que Luc a organisé ça, Luc va nous parler du ministère de Jean-Baptiste, puis après ça, on n'entend plus parler de Jean-Baptiste, je pense, jusqu'au chapitre 7. Parce que Luc veut souligner que le ministère de Jean-Baptiste est de préparer le terrain. Jean le Baptiste était un prophète de Dieu qui avait été envoyé par Dieu pour préparer les cœurs. Et quand Dieu veut faire une œuvre grande, il commence par préparer les cœurs. Alors Jean est envoyé, puis Jean arrive avec un message, le baptême de repentance, la repentance qui ouvre la voie à l'œuvre de Dieu. Je vous relis simplement les versets 7 et 8. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés, « Race de vipères », il parle à des Juifs, d'accord? Il parle à ses concitoyens. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » On est déjà prêt, on est déjà qualifié, on est déjà disponible. On appartient à la race d'Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Quel message baveux, hein? Quel provocateur! Puis, ce que Luc dit, c'est que le ministère de Jean, c'était d'appeler les gens au baptême de la repentance, à un baptême de repentance. cette notion-là, oubliez le baptême juste un instant, juste cette notion-là, cette idée-là de repentance qui est le métanoïa en grec, c'est au cœur de l'Évangile, c'est au cœur du début de la vie chrétienne, c'est au cœur de chaque jour de la vie chrétienne, c'est au cœur d'une vie chrétienne remplie de l'Esprit. Chaque fois que Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un individu, dans la vie d'un peuple, dans une église, quand vous pensez au grand réveil spirituel qu'il y a eu à travers l'histoire de l'Église, Dieu produit cette œuvre-là de repentance. Quand Dieu prend un chrétien qui dort au gaz, puis à un certain moment donné, il y a une œuvre puissante de l'Esprit dans sa vie, il va y avoir une œuvre de repentance. Qu'est-ce qui est là? Bien, c'est simplement un retournement vers Dieu, un volte-face, un retour à Dieu. C'est une plongée à l'intérieur de soi-même où je prends le temps d'examiner ce qui ne va pas dans mon rapport avec Dieu, dans mon rapport avec le monde, dans ma conception de la foi, dans ma conception de la religion, dans ma conception de mes priorités. Et donc, ce que Jean-Baptiste est en train de faire, il est en train de dire, ça marche pas pantoute, les gars. Vous êtes installés dans une religion, et ça, c'est votre sécurité, mais votre cœur n'est pas branché du tout avec Dieu. Et donc, il les appelle à un retour à Dieu. Quand Dieu appelle ses serviteurs, quand Dieu appelle un non-chrétien, quand Dieu appelle, Dieu appelle à la repentance. Il va y avoir une exception, on va l'avoir dans quelques instants. Mais Dieu appelle à la repentance. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a placé comme appel dans ta vie. Peut-être que tu es ici et tu es en train de chercher Dieu. Tu cherches à connaître Dieu. Tu ne pourras pas trouver Dieu s'il n'y a pas un moment où tu entres en toi-même et tu réalises que ça ne va pas entre Dieu et toi, du tout. Où tu réalises que Dieu est là, puis toi, tu es ici, puis à quelque part, il va falloir que tu tournes vers lui. Il va falloir que tu te détournes d'une direction où tu t'en vas. Si tu viens me voir, puis tu vas voir un pasteur, tu vas voir ton leader de petit groupe, tu vas voir quelqu'un qui est en train de te coacher, puis tu dis, « Ah, je pense que j'ai compris à quoi Dieu m'appelle. » Commence par voir qu'est-ce que Dieu est en train de te dire qui ne va peut-être pas. Et là où Dieu veut faire du ménage, pour que cet appel-là ne soit pas un sujet de gloire, mais ce soit un sujet de revenir à Dieu, l'occasion de revenir à Dieu. Alors, ce message-là de repentance est constant, il demeure. Ce n'est pas une vue de l'esprit, d'accord? Ce n'est pas quelque chose pour les super spirituels. Le message de Jean-Baptiste, c'est que cette repentance-là va produire des fruits. Versets 10 et 11, la foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous donc faire? » La foule comprenait très bien qu'il y avait un reproche de la part de Jean-Baptiste et qu'il devait faire des choses. Regardez ce qu'est la réponse de Jean-Baptiste. « Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Et donc, Jean invite ses concitoyens à se repentir, à se détourner d'une espèce de religiosité installée et non seulement poser quelque chose de « Ah, c'est entre moi et Dieu, la repentance, c'est juste, c'est spirituel, c'est quelque chose avec Dieu. » Non, il dit « Portez les fruits dignes de la repentance. » Si je n'ai pas le droit de juger le cœur de qui que ce soit sur la terre, je dois par contre porter attention à ces fruits. Puis avec grâce, avec douceur, avec amour, adresser la question des fruits. Parce qu'il n'y a pas de repentance sans fruits dignes de la repentance. Et ces auditeurs-là de Jean-Baptiste, ces gens-là, comprenaient très bien que Jean est en train de leur dire, « Vous dites que vous croyez en Dieu, mais votre vie dit exactement le contraire. Vous ne portez pas les fruits dignes de la repentance. » Et ça va se traduire de toutes sortes de manières différentes. La foule pose une question, « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? » Mais regarde comment tu gères tes biens matériels. Regarde comment tu regardes le pauvre à côté de toi. Regarde comment tu gères tes ressources disponibles. Puis là, quelqu'un d'autre lève la main et dit, « Ouais, mais moi, je suis soldat. Qu'est-ce que ça veut dire? » Mais la repentance, ça veut dire que tu vas être honnête. Tu ne vas pas abuser de ton pouvoir, de ton autorité. Tu es comptable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est toi qui sais ce que ça veut dire. Tu es avocat. Je ne sais pas. C'est toi qui sais. Tu es prof. Tu es à la maison. Tu es un étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose des fruits dignes de la repentance. Ce sont des fruits qui vont être des agissements, des comportements très concrets et visibles qui vont dire que toi, tu es connecté sur Dieu. Tu n'es pas dans une business de religiosité qui est juste une image, une posture « je suis chrétien ». Oui, c'est bon de le dire, ça devrait déjà à quelque part transpirer avant que tu le dises, avec les fruits dignes de la repentance. Et ce message-là demeure à travers tous les âges. C'est le message de Jean-Baptiste, c'est le message de Jésus, c'est notre message à nous. Beaucoup plus tard dans l'Évangile de Luc, on va le voir dans plusieurs semaines, mais dans Luc 24, 46, 47, c'est Jésus qui les enseigne et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, que lui-même allait souffrir, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Je ne peux pas annoncer l'Évangile. Je ne peux pas annoncer l'Évangile sans annoncer la repentance des péchés. Je ne peux pas annoncer une bonne nouvelle sans annoncer qu'il doit y avoir une repentance. Et c'est possible que tu essaies de vivre la vie chrétienne sans avoir expérimenté cette repentance profonde-là. Plusieurs vont l'expérimenter à travers un brisement intérieur. Si je m'en vais dans l'expérience subjective de chacun, plusieurs vont vivre un brisement intérieur. Un moment où, c'est drôle parce que c'est comme un moment de grâce extraordinaire, puis c'est un moment profondément humiliant. Parce que tu te retrouves devant Dieu, puis tu réalises la sainteté de Dieu. Et à quel point tu es inapte à être présent avec Dieu. À quel point ta vie est remplie de mensonges, de conneries, d'égoïsme, d'hypocrisie, de fourberie. Puis là, tu te sens complètement nu comme un ver devant Dieu parce que tu réalises que lui est saint et toi, tu ne l'es pas. Puis c'est un brisement. Puis ce brisement-là est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que la bonne nouvelle de l'Évangile, le pardon à Jésus-Christ, peut être déposé dans ton cœur. Avant ça, il n'y a pas de place dans ton cœur pour recevoir l'Évangile. Et donc, le principe s'applique aussi si tu es chrétien depuis longtemps, puis tu dis, « Me semble qu'il n'y a plus de feu dans mon cœur, me semble que je suis comme pris dans une routine, dans une patente où je vis ma vie chrétienne. Petit train va loin, mais en même temps, il n'y a pas de feu. La parole ne me parle plus. » Demande à Dieu de t'accorder cette grâce de la repentance. Crains pas les châtiments de Dieu, crains pas les brisements que Dieu apporte. Ce sont des grâces. J'en ai vécu plusieurs dans ma vie. Des moments où je pleurais de désespoir de voir ma stupidité, ma connerie. T'es brisé, puis en même temps que t'es profondément humilié, tu sens l'amour du Père qui est là puis qui t'aime. À travers le brisement, tu reçois ça comme une grâce de Dieu parce que tu sais qu'enfin, enfin tu vas pouvoir marcher rempli de l'Esprit. Avant ça, c'était plein de résistance. C'est plein de résistance. Le message ne change pas. Jean-Baptiste, Jésus, nous-mêmes. Le même message. Est-ce que dans ta vie personnelle, tu as vécu cette repentance et ces fruits de la repentance? Est-ce que dans le message que tu apportes à ta famille, à tes enfants, aux gens autour de toi, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est présent? Ça s'apporte avec humilité, ce message-là, avec l'humilité de celui qui a été brisé lui-même et qui a goûté la grâce de Dieu. Ça s'apporte avec douceur. Parfois, ça porte comme Jean-Baptiste l'apporte, à celui qui résiste constamment à Dieu. Parfois. Et puis Jean annonce que ce baptême d'eau, ce baptême de repentance que lui pratique, c'est en fait juste un symbole d'un baptême plus grand qui va venir. Les chrétiens vont baptiser d'eau aussi, comme on va le faire dans quelques semaines. Mais sous le ministère de Jésus et depuis la venue de Jésus, depuis sa mort, sa résurrection, ça prend une nouvelle dimension, plus riche encore, plus grande encore. Parce que lorsque les chrétiens baptisent quelqu'un par immersion, il y a cette symbolique qui représente la repentance. Je meurs à moi-même, je suis immergé et je cherche cette purification que seul Dieu accorde. C'est simplement un symbole. Mais en même temps, j'entre dans une nouvelle vie. Je ressuscite avec Jésus-Christ. J'entre dans une vie nouvelle. Et si Jean prêchait le baptême de repentance, les chrétiens annoncent la nouvelle naissance en Jésus-Christ, un baptême plus grand encore, qui est le baptême de l'Esprit. Et donc, lorsque le chrétien s'en va se faire baptiser comme ça dans l'eau, symboliquement, il représente cette repentance qu'il a vécue à l'intérieur de lui-même. Et comme Jean l'annonce, Jésus baptise du Saint-Esprit. Jean dit, nous, c'est symbolique ici, mais une fois que Jésus va être venu, il va y avoir un baptême beaucoup plus grand que ce symbole-là. Parce que lorsque vous allez placer votre foi en Jésus-Christ, vous allez recevoir l'Esprit Saint. On va développer ça progressivement à travers l'Évangile de Luc. Mais déjà, on va voir l'œuvre de l'Esprit dans la vie même de Jésus. Alors, quand Dieu appelle, quand Dieu prépare, que ce soit pour la conversion ou pour un ministère particulier, Dieu prépare les cœurs. Dieu prépare les cœurs en appelant à la repentance. En appelant à la repentance. Il prépare le terrain, puis ensuite il prépare son serviteur. Quand Dieu appelle son serviteur. C'est vraiment fascinant parce que, je veux dire, Jésus était consacré depuis sa naissance. Là, il se passe quelque chose de bizarre dans le passage. Honnêtement, bizarre parce que le baptême que Jean-Baptiste prêchait, c'était quoi? Le baptême de repentance. Puis là, on a Jésus qui arrive là. Mais il venait se repentir de quoi, ce Jésus-là? Il se repentait de quoi? Je veux dire, si vous avez lu un petit peu les évangiles, il n'y avait pas de sujet de se repentir. À 12 ans, il était au temple, ses parents le cherchaient, puis là, il le trouve finalement après 3 jours. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, il est en train de converser avec les docteurs du temple. Il dit, mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Tu sais, on est ailleurs, OK? C'est pas un ado normal, d'accord, les parents? Rêvez pas de ça, c'est pas un ado normal, 12 ans, ça va? Fait que de quoi il vient se faire baptiser? De quoi il se repent ici? Mais de rien du tout. Jésus vient s'identifier à nous. Jésus vient parce qu'un jour, quelques années plus tard, il va être cloué au bois et va prendre sur lui la malédiction de nos péchés. Alors, de la même manière que Jésus va mourir sur la croix, cloué à la croix, en s'associant à nous, en prenant sur lui la malédiction de nos péchés, il s'identifie à nous en étant baptisé. Et je crois qu'il y a un autre élément qui est super important, c'est le moment où Dieu va consacrer son serviteur, son fils, pour le ministère auquel il est appelé. Alors voyez-vous, il y a ce moment où il se fait baptiser, l'Esprit va venir sur lui, je viens à ça dans un instant, mais regardez le verset 23 ensuite. Donc on est dans Luc 3, 22, 23, verset 23, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » Avant ça, il n'était pas dans son ministère. Mais environ 30 ans, il est mis à part pour commencer son ministère. Et donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il va venir faire descendre son esprit sur lui. C'est une des choses qui est fascinante et qu'on doit apprendre à reconnaître, à se rappeler. L'Évangile de Luc nous enseigne que cette œuvre extraordinaire que Jésus va faire, les miracles, les enseignements, tout ce qu'il va apporter, le modèle qu'il va être, c'est une œuvre surnaturelle. Je vais le dire comme ça, pour Jésus aussi. Il me semble que s'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une onction de l'Esprit, que l'Esprit vienne sur lui pour faire son ministère, s'il y a quelqu'un de toute évidence qui n'avait pas besoin d'être baptisé du baptême de repentance, bien c'est Jésus. C'est mal comprendre qui est Dieu. C'est mal comprendre à quel point la Trinité est investie dans tout ce que Dieu fait, toute la Trinité est présente. Et donc, même pour Jésus, Jésus va faire les miracles, le ministère qu'il va faire. Il va enseigner, non pas par la puissance de Jésus, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici dans le passage? Verset 21, « Tout le peuple se faisait baptiser. » Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et à partir de ce moment-là, à plusieurs reprises, Luc va répéter que c'est par l'Esprit que Jésus fait son œuvre. Alors, je fais une parenthèse pour vous et moi. Si Dieu vous appelle à quelque œuvre que ce soit, assurez-vous que vous la faites en cherchant quotidiennement la plénitude de l'Esprit. L'erreur qu'on fait, c'est de chercher l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Dieu m'appelle à me marier. Man, tu vas avoir besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je te le dis. C'est une œuvre surnaturelle à laquelle Dieu t'appelle. Être heureux dans ton mariage, servir ton époux, servir ton époux. C'est une œuvre surnaturelle. Tu vas avoir besoin de la plénitude de l'Esprit. Dieu m'appelle au célibat. Tu as besoin de la plénitude de l'Esprit. Dieu m'appelle dans telle carrière, à être là, à être un témoin. Dans une école comme professeur, Dieu t'appelle à une œuvre surnaturelle. Dieu m'a donné des dons spirituels, il m'appelle à enseigner la parole. Oh, fais-le avec tremblement. Assure-toi quotidiennement que tu cherches la plénitude de l'Esprit. Parce que Jésus a fait une œuvre extraordinaire par la puissance du Saint-Esprit. Alors toi et moi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et on est appelé à grandir et à réaliser cela. Et plus tard, Jésus va dire, il va le dire à ses disciples, « C'est moi qui vous choisis, c'est moi qui vous appelle, et l'œuvre à laquelle vous êtes appelés, vous allez le faire par la puissance de mon esprit. » Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et plus tard, on va développer à travers le livre des Actes la puissance de l'Esprit. La vie normale d'un chrétien, lorsqu'il comprend les appels que Dieu a placés sur sa vie, c'est de chercher à le faire par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est de chercher à le faire par la puissance de l'Esprit-Saint. Et peut-être la chose la plus surprenante dans ce passage-là, c'est que Jésus a eu besoin de passer des tests pour se qualifier. Quand Dieu prépare son serviteur, il le met à l'épreuve. Il l'a fait avec Israël, il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Jésus. Et il va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Trois tests qu'on peut chercher à examiner dans nos propres vies. Des fois, on oublie que c'est Dieu qui nous conduit là. Regardez bien ce qui est écrit dans le passage. Jésus remplit, Luc 4, 1 et 2, Jésus remplit du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Je ne sais pas comment il a fait. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. OK, ça c'est un bout qui me manque. Mais Jésus est conduit par l'Esprit. Parce qu'il devait aller passer ces tests-là, très similaires aux tests qu'Israël. Israël a passé lui-même, le peuple de Dieu a passé des tests similaires à ceux de Jésus. Mais il devait aller passer ces tests-là pour être qualifié pour son ministère. Trois tests. Je vais les résumer comme ça. Il y a toutes sortes de manières qu'on pourrait les résumer, mais j'ai voulu essayer de les mettre concrets pour qu'on puisse les voir dans la vie de Jésus et chercher à se les approprier nous autres aussi à notre tour, d'accord? Trois tests. Le test des priorités. Le test des idoles, le test de la confiance en Dieu. D'accord, vous retenez ça? Le test des priorités, le test des idoles, le test de la confiance en Dieu. Luc 4, 3 et 4. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » C'est vraiment fascinant quand tu étudies les Écritures. Dieu peut donner à Abraham des fils à travers ses pierres. C'est vraiment intéressant les thèmes qui reviennent. Lisez Luc, si vous voulez voir les perles, il y en a trop pour que je puisse tous les relever, d'accord? Toutes les relever. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est intéressant, dans les autres évangiles, on a comme la suite de la réponse de Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on ne l'a pas ici. Et Luc est en train de nous exposer à ce test qu'il a vécu. Qu'est-ce que je poursuis premièrement avec ma vie? Quelles sont les priorités dans ma vie? Puis le diable vient tenter Jésus avec quelque chose de légitime. Écoutez, ça fait, je ne sais pas si vous avez déjà jeûné, je ne sais pas combien de temps vous avez jeûné. J'ai partagé avec des gens dernièrement, ça fait juste quelques mois que Dieu m'a accorder la grâce d'apprendre vraiment à jeûner. C'est fou, c'est une des disciplines qui m'a pris le plus de temps à apprendre, mais je le fais avec grâce, je le fais avec joie, puis je sais pas où est-ce que ça va finir, cette affaire-là. Je vais pas fondre au complet, OK? Mais vraiment, c'est une joie. C'est une grâce. Alors, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. 40 jours, je l'ai jamais expérimenté. 40 jours à jeûner. Puis à la fin de tout ça, le diable vient avec cette tentation. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, on va voir si tu es super power, man. Tu vas dire à ces roches-là de devenir un super snack, puis tu vas manger. Puis Jésus lui dit, ma priorité, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas la nourriture. Ma priorité, c'est de faire la volonté de mon Père. Ailleurs, dans les autres évangiles, Jésus va dire, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il fallait que Jésus passe ce test-là pour être prêt à la croix. La tentation que le diable présente ici avec la nourriture, c'est rien. C'est rien. À la fin de ce passage-là, Luc nous dit que le diable se retira en attendant un moment favorable pour revenir tenter. Je suis certain qu'il y a eu d'autres tentations qui ne nous sont pas rapportées. Mais définitivement, dans le jardin, la tentation va revenir. Jésus doit passer ce test-là. Quel que soit l'appel auquel que Dieu place dans ta vie, un des tests que tu vas passer, est-ce que ta priorité, c'est de faire la volonté de ton Père? Cette volonté-là nous est parfaitement communiquée à travers sa parole. Si c'est le cas, tu vas te nourrir de la parole de Dieu. Tu vas apprendre que ce n'est pas possible pour un chrétien de garder les priorités dans le bon ordre si régulièrement, je ne suis pas en train de mémoriser, de méditer. Puis toutes les ressources sont là, de lire la parole, de le faire en famille, de réécouter le message pour aller plonger davantage dans le passage. Mais j'ai besoin constamment de le faire. Je partageais la semaine dernière à un jeune homme, je lui disais, j'ai des rêves, j'ai toutes sortes de choses. Puis à tout moment donné, je sens que mon cœur veut comme se séparer en deux. Puis là, je réalise à un certain moment donné, Dieu me rappelle, on dirait que j'ai perdu ma passion pour ton royaume, Seigneur. Et mon remède est simple. J'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu parce qu'elle est vivante et efficace. Et je retourne dans la parole puis je dis, Seigneur, viens ramener le focus de mes priorités parce que je veux me nourrir de ta volonté, Seigneur. De ta volonté, Seigneur. De ta parole, Seigneur. Le test des priorités. Le test des idoles. Ce qui se passe ici, c'est que le diable se présente puis il dit, écoute, la terre entière m'a été donnée. Si tu es le Fils de Dieu, tu devrais régner. Tu devrais régner sur la terre. Moi, je suis prêt à te l'offrir. Je ne sais pas ce que ton Père céleste t'offre. Moi, je pense qu'il t'offre la souffrance. Moi, je t'offre de régner sur la terre. Jésus sait les souffrances qui s'en viennent pour lui. Et la tentation qui lui est proposée, c'est de prendre quelque chose qui lui revient légitimement. L'autorité, ça va venir. Son Père lui a promis. Sauver un peu de temps, passer à côté de la souffrance, prendre tout de suite tout cela. Mais il y a un prix, il y a un prix qui vient avec ça. Le diable lui dit, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répond, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Je crois que dans nos vies, dans nos ministères, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans le service, la tentation est là de prendre ces bonnes choses que Dieu nous confie. Dieu nous donne un appel. Jésus-Christ était appelé à régner sur l'univers. C'était ça son appel. C'était précédé de l'appel de la croix, n'est-ce pas? Mais il était appelé à ça. Et je crois qu'une des tentations qui vient pour nous, c'est de prendre notre appel et de trouver notre identité dans ça, d'en faire une idole et de dire, c'est ça qui va être ma gloire. Et il y a un prix à payer pour ça, c'est que mon cœur se détourne de Dieu. Dieu t'a donné des dons, il t'a donné des talents, il a placé des appels sur ta vie pour que tu le serves et que tu le glorifies lui seul. Et la tentation va venir pour toi de prendre ces choses-là et de définir ta valeur, ta grandeur, ta beauté à travers ça. Dieu t'a donné ces appels-là pour le glorifier. Le test des idoles. Est-ce qu'à travers les appels que Dieu a placés sur ta vie, tu es en train de servir Dieu premièrement? D'adorer Dieu, de le glorifier. Dans ton mariage, c'est un appel. Est-ce que ton mariage est devenu une idole, puis tu crois que c'est là que tu vas te réaliser? Je vais te donner un mariage sur lequel tu vas régner. Votre famille sera belle et exemplaire. Ton époux, ton épouse t'aimera parfaitement. Oh, que tu seras beau. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et tu prends ton mariage, puis tu le donnes au Seigneur. Dis, Seigneur, je veux juste être ton serviteur dans cet appel-là. Je ne veux pas en faire une idole dans ma vie. Tes enfants, ta carrière, tes dons, ton appel spirituel, ton ministère. Troisième test, le test de la confiance en Dieu. Dieu sait que Jésus l'a passé. Il va le repasser encore. Le diable vient à un point où il le tente et il lui dit, « Crois-tu vraiment que Dieu t'aime? Crois-tu vraiment que Dieu va être là? » Parce qu'il y a des moments difficiles qui s'en viennent. « Crois-tu vraiment que tu vas ressusciter d'entre les morts une fois que tu vas avoir porté le péché des hommes? Quand Dieu, le Père, va avoir détourné son regard de toi parce que tu vas être fait péché, crois-tu vraiment que tu vas ressusciter d'entre les morts? Toi qui vas être maudit, crois-tu vraiment que Dieu va être fidèle? » Et simplement, le diable lui dit, « Écoute, il y a des moments difficiles qui s'en viennent. Ce serait sage de t'assurer que Dieu est digne de parole. Il a dit qu'il te protégerait. Jette-toi en bas du temple. On va juste valider ça, il y a des moments difficiles qui s'en viennent. » Jésus lui répond, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'est Dieu qui nous appelle. C'est lui qui nous fait cette grâce-là. Et tout le long de mon service dans cet appel-là, je suis appelé à garder les yeux fixés sur lui. Quand je suis en train d'entrer dans ce service-là, quand Jésus est en train de le servir, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va cultiver sa relation avec son Père. Si vous êtes familier avec les évangiles, rappelez-vous ce qu'il va dire dans Jean. « Je fais les choses que mon Père m'a montrées. Mon Père ne fait rien sans me le montrer. Tout ce que le Père veut que je fasse, je suis en train de le faire. » Et donc, le premier focus de Jésus est toujours cette communion-là avec son Père. Jésus n'a pas à douter de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et donc, il n'y a pas à mettre Dieu à l'épreuve, à le tenter en remettant en question sa fidélité. Je ne sais pas quels sont les appels que Dieu a placés sur ta vie, mais il va y avoir des moments où tu vas douter de la fidélité de Dieu. Tu dois retourner au Père, retourner au cœur de l'Évangile, te rappeler qu'avant de t'appeler dans tel ou tel ministère, dans tel ou tel appel particulier, il t'a premièrement appelé à être en Jésus-Christ. Et c'est là, au cœur de l'Évangile, dans l'amour du Père pour toi, qui a donné son Fils sur la croix pour toi, que tu vas trouver cette confiance. Dieu va être fidèle. Je n'ai pas à douter de lui. Je peux continuer à lui faire confiance. Ces deux chapitres-là ne sont pas là pour qu'on applique tout ça premièrement à nos vies. Ces deux chapitres-là, je luttais tout le long pendant la semaine et je termine avec ça. Je luttais avec ça tout le long pendant la semaine parce que je voyais tellement d'applications pour nos vies personnelles. Puis là, je priais et je disais, « Seigneur, ça ne parle pas de nous, ces deux chapitres-là. Ça parle de Jésus. Ça ne parle pas de moi, ça parle de Jésus. » Il montre la généalogie, puis il donne la généalogie de Jésus, puis il revient jusqu'à Adam. Adam, fils de Dieu. Hey, c'est vrai, c'est le premier qui n'a pas été vraiment, il n'a pas été engendré. Il a été engendré par Dieu, donc il est fils de Dieu. Puis il passe son temps à dire, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est le fils de Dieu. Jésus, c'est celui qui passe tous les tests, qui les réussit, ces tests-là. Alors, en même temps que je peux prendre ce passage-là et comprendre comment ça s'applique à moi, ce que je veux faire, et c'est ça ma prière, ce que je veux faire, c'est que je veux adorer Jésus-Christ. Je veux voir que Jésus est le seul Fils de Dieu qui passe les tests et les réussit. Tu vas en couler des tests, je te le garantis. Je veux voir que Jésus est le seul Fils de Dieu qui toujours est rempli de l'Esprit. Des fois, tu vas résister à l'Esprit Saint, je te le garantis. Je veux voir que Jésus est le Fils unique de Dieu. Parce que lui seul a été appelé à aller mourir sur la croix pour nos péchés. Et mes regards, alors que je comprends les appels que Dieu place sur ma vie, alors que je me repens, alors que j'apprends à lui faire confiance, mes regards doivent être fixés constamment sur Jésus-Christ. Parce que moi, je vais couler des tests. Parce que moi, je ne serai pas toujours rempli de l'Esprit. Parce que moi, je vais me trouver vraiment en dessous de mon appel. Pas à la hauteur. Jésus-Christ seul. Et tout ce que je veux faire, c'est l'adorer et le suivre. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es le seul Fils parfait. Israël a manqué, Moïse a manqué, David a manqué. Les plus grands serviteurs de Dieu ont manqué. Toi seul, Seigneur Jésus, as été un Fils parfait, un serviteur parfait. Seigneur, à travers ce passage, si on peut apprendre à entrer dans les appels que tu places sur nos vies, on veut premièrement t'adorer, Jésus. On veut reconnaître que toi seul et ce Fils bien-aimé en qui le Père a mis toute son affection, toi seul as été fidèle à travers toutes ces épreuves et ces tests. Toi seul as été fidèle pour apporter le message de ton Père, pour aimer ceux qui te rejetaient. Toi seul as été fidèle à travers les épreuves de la croix. Toi seul as été fidèle pour intercéder en faveur des pécheurs alors que tu étais pendu au bois. Toi seul es ressuscité d'entre les morts, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de nous convaincre de péché là où nous avons besoin de nous repentir, Seigneur. On te demande, Seigneur, de préparer nos cœurs à te suivre. Là où tu nous appelles. Amen.